Bonjour, je suis Cécile Paliès et vous écoutez un podcast du Réseau Santé Bruxellois enregistré lors d'un débat organisé autour de la sécurité des données de santé partagées. Suite à la demande rencontrée pour l'enregistrement de notre vidéoconférence, nous sommes heureux de partager avec vous ces moments sous forme de podcast malgré une qualité sonore imparfaite. Pour lutter contre la fracture numérique, différents moyens sont mis en place. Avec Vincent Claes, rédacteur en chef du Journal du médecin, nos experts reviennent sur ce sujet complexe et donnent des pistes d'aide aux citoyens pour que chacun puisse accéder à son dossier santé partagé en ligne. Parmi les nombreuses actions dans ce sens, la volonté d'informer tous les citoyens à travers des campagnes de communication sur lesquelles revient Christine Debray, directrice du Réseau Santé Bruxellois, mais aussi sur l'app Mes médicaments, mise en place par l'INAMI pour la gestion des prescriptions électroniques.
Par rapport à la fracture numérique, je sais que c'est un débat essentiel qui avait été évoqué. Et c'est un débat compliqué parce que, à un moment, je me souviens qu'on avait évoqué, aussi dans le domaine de l'e-santé ici, que vous faites le tour des communes, des CPS, etc. Et certains m'avaient dit pourquoi est-ce qu'on peut pas songer à des sortes, comme il y avait des écrivains publics, qui aient des écrivains numériques qui aident les personnes plus précarisées ou les personnes âgées qui ont cette fracture numérique. Le principe paraît beau. Moi, mon seul point d'attention, c'est de dire, attention, on parle du dossier médical. Donc, je ne voudrais pas que, bien sûr, s'il pourrait aider la personne à se connecter la première fois. Là, j'ai pas de souci. Mais attention au risque, notamment des personnes qui sont plus fragilisées, des personnes qui sont un peu plus crédules, qui sont personnes âgées, qui vont se laisser guider par des personnes bienveillantes, mais qui ne vont pas se dire, oh, bon, après tout, c'est telle personne de la commune, du guichet qui voit, qui m'aide. Est-ce que c'est vraiment si important qu'elle ne voit pas mon dossier médical? Ben oui, elle ne peut pas avoir votre dossier médical. Donc il faudrait vraiment faire attention. C'est pas simple de dire simplement on aide à effectivement dépasser la fracture numérique pour se connecter. J'entends bien. Mais une fois que la personne est connectée, ben, imaginez que la personne dit, et dans le dossier, c'est quoi sa sumaire? C'est quoi schéma de médication? Et si là, une personne doit aider, elle n'a pas, on doit être dans une relation thérapeutique, elle n'a pas à avoir le dossier médical. Donc, vous voyez que c'est pas si simple que ça. C'est un débat très complexe autour de ça.
Mais le médecin généraliste peut aider son patient Tu ne comprendrais pas comment fonctionne Jean-Marc?
Oui, oui, il y a le médecin généraliste, puis il y a aussi des personnes qui se font assister par une personne de confiance, qui est un acteur dans la loi de vie du patient. C'est-à-dire que le patient qui n'est pas à même de tout gérer, de gérer tous les paramètres lui-même, aura une personne de confiance qui l'assistera, ne prendra pas de décision à sa place. Donc ça, c'est très, très important. La personne de confiance n'est que là pour aider le patient, en ce compris pour accéder, le cas échéant, à son dossier médical, ou en tout cas partagé sur le réseau, ou le dossier médical qui est au sein de l'institution de soins de santé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un personnage qu'on doit mettre en avant, parce que c'est quelqu'un de précieux, parce que, un, c'est quelqu'un qui connaît bien le patient. En général, il y a une relation entre cette personne de confiance et le patient. Et donc, il y a une sorte d'intimité entre ces deux acteurs qui, évidemment, réduit le risque d'avoir des informations qui partent à gauche et à droite. Et surtout, si le patient, à un moment, ne peut plus avoir cette personne de confiance pour mille et une raisons, eh bien, il enlève ce mandat de personne de confiance sans aucune justification. C'est vraiment du jour au lendemain. Et donc, ça aussi, c'est une garantie pour le patient. C'est qu'il n'a pas quelqu'un qui va le suivre toute sa vie sans qu'il puisse avoir aucun contrôle sur lui. Et donc ça, c'est vraiment un personnage qui, à mon avis, peut aider la personne qui n'est pas familière. Alors, on parle souvent des vieilles personnes, mais en fait, il y a des gens de 40 ans qui ne sont pas du tout familiers avec l'informatique et qui ont besoin de ce... Et je prendrais comme ça un exemple pour montrer que la fracture numérique n'est pas toujours une question d'âge. Un jour, on faisait avec un collègue une conférence. On utilisait un système de vote sur smartphone et les organisateurs disaient, ah oui, mais non, les personnes âgées, ils vont pas l'utiliser. Sur 120 personnes, 100 personnes qui étaient toutes au-delà de 70 ans ont utilisé leur smartphone et ont voté en ligne. Pour montrer qu'il ne faut pas toujours focaliser sur les personnes âgées, mais aussi sur des personnes qui sont moins habiles dans la gestion de ce système-là. Et là, la personne de confiance peut vraiment être la personne adaptée, je veux dire, pour ce type de service.
Ça paraît simple pour beaucoup de gens, mais est-ce que le patient plus âgé peut se faire aider par quelqu'un Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce qu'il y a un call center ici au réseau santé bruxellois pour aider les gens, pour leur expliquer comment tout ça fonctionne?
Alors oui, on a un helpdesk, hein, comme on appelle ça, qui est accessible environ à mi-temps. Donc il y a toujours bien un créneau, je dirais, chaque jour où il est possible de nous contacter directement par téléphone, qu'on soit patient ou médecin d'ailleurs, parfois, parce qu'on a certains médecins plus âgés qui ont aussi parfois certaines difficultés. On répond aussi par email. Voilà, donc on se rend disponible.
Quel que soit du coup le portail qui est utilisé, hein, donc voilà, si on parle du portail de Célois ou sur le portail Ma Santé au niveau fédéral, qu'importe. Il y a un effort effectivement à faire, je pense, de notre part, tout l'ensemble, administration, autorité, coffre-fort, pour essayer de mieux vulgariser, d'une certaine manière, dans le sens noble du terme, les termes qu'on utilise. Le terme du SUMER, par exemple. Qu'est-ce que le patient connaît de SUMER? Si on dit, effectivement, c'est le résumé sanitaire qui reprend votre problème, vos traitements, vos allergies, les antécédents personnels et familiaux qui sont significatifs et relevants pour une prise en charge en urgence. Moi, l'exemple que je donne, c'est, voilà, vous avez un accident, vous êtes aux urgences, vous êtes inconscient, votre famille n'est pas là, eh bien, le médecin peut, effectivement, avec toutes les conditions qu'on a évoquées, si vous avez mis le consentement, il peut aller voir ce SUMER. Mais le SUMER, le patient, donc voilà, c'est quelque chose, c'est un langage relativement abscons et d'initié que nous connaissons et on baigne là-dedans tous les jours. Mais la personne lambda, je pense que dans les efforts qu'on doit faire pour l'ensemble des portails qui sont utilisés, soit celui du Bruxellois, celui des autres administrations aussi, c'est de faire un effort de communication et d'empathie par rapport aux citoyens, parce que sinon on se défie de la fracture numérique ou socioculturelle et qui n'est pas de nouveau liée à une partie de la population, hein, comme l'a dit Jean-Marc, le SUMER, on peut prendre quelqu'un qui aurait le meilleur diplôme du monde, mais s'il n'est pas d'un comme nous baigné tous les jours dedans, le SUMER, ça va lui dire absolument rien, et c'est normal, et à la rigueur, on lui demande pas de savoir ce que c'est le SUMER, donc s'il retient qu'il y a son médecin généraliste qui peut donner, qui doit actualiser dès qu'à la fin de la consultation ce résumé, cette photo sanitaire, ça c'est le plus important. Et qu'à la rigueur, il interroge aussi son médecin en disant bah, « Tiens, j'ai pas ce SUMER sur le portail, comment ça se fait ?» Ça c'est une discussion à avoir en colloque singulier avec son médecin généraliste. Donc voilà, ça c'est le genre de choses. Je pense qu'on a tous un travail collectif de remise en question, en ce compris de repas au niveau de la plateforme NIEX, hein, à avoir au niveau de la communication et de l'empathie pour le citoyen dans déjà le paysage, comment dire, relativement complexe institutionnellement, mais en plus si les termes utilisés ne sont pas accessibles, ça ne rend pas effectivement, ça rend le système encore plus perméable, quoi. Imperméable.
Et quoi, ça passe par des campagnes de communication, ça passe par quoi parce que c'est vrai que on va peut-être rappeler qu'on est dans la semaine de la santé, hein, cette semaine, et que donc qu'il y a cette vocation de faire un focus pendant une semaine sur l'e-santé et le partage des données. Christine, vous pouvez peut-être un petit peu préciser pourquoi vous faites cette semaine et pourquoi on met le point sur la sécurité des données aussi par la même occasion.
Ok, alors bon, on a été, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais vous avez peut-être ou lu ce rapport de la Fondation Roi Baudouin qui expliquait qu'environ un Belge sur deux n'était pas au courant de ce qu'est le dossier santé partagé, n'est pas du tout familier avec ce partage de données santé par voie numérique. On a été fort interpellés par cela, parce que ça fait quand même plusieurs années déjà qu'on organise une semaine dite e-santé, mais déjà e-santé, qu'est-ce que ça veut dire en fait, franchement ouais. Donc on a tout fait avec l'équipe de communication, on a voulu avoir ce courage de repartir d'une feuille blanche et de dire on va essayer de parler de ce que les gens comprennent. Alors tout le monde peut comprendre ce que c'est une prise de sang. Voilà, on a essayé vraiment d'oublier tout jargon et d'être le plus concret et pragmatique possible. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu faire au travers de cette semaine, repartir à zéro, prendre vraiment chaque citoyen par la main et lui dire, voilà, il ne faut pas être forcément malade pour vouloir un jour consulter le résultat d'une prise de sang, par exemple. Voilà, il y a zéro jargon là-dedans. Donc, on a vraiment, et je salue tout le travail qui a été fait par la nouvelle équipe communication, parce que ce n'est pas si évident, en fait. Parce qu'on croit, on finit par croire que tout le monde sait ce que c'est, un sumer, etc. Alors, donc ça, c'était vraiment le, voilà, l'accent de cette semaine e-santé. On a aussi voulu aller à la rencontre des citoyens où ils sont, avec leurs différences, dans leur langue différente. On était donc, voilà, on est présent cette semaine-ci dans 4 maisons communales. On a essayé de cibler des communes avec une forte diversité culturelle. On était là, alors au sein de l'équipe d'Abrumettes, on a aussi une grande diversité. Donc, on a pu avoir des échanges voilà, en arabe, demain sera peut-être en turc. Voilà, donc c'est ça aussi qu'on a voulu faire au travers de cette semaine e-santé. On est aussi présent dans 4 institutions hospitalières et c'est vraiment cibler des institutions qui ont ouvert beaucoup de documents pour qu'ils soient accessibles aux patients et en même temps d'être aussi dans des communes à forte diversité, donc pour vraiment être proche je dirais, du patient. Alors, pourquoi ce débat sur la sécurité? Ben, c'est vrai qu'il y a eu toute une série du côté de la presse francophone. C'est quand même un thème qui a été très, très présent au cours des 12 mois écoulés. On a aussi vu de temps en temps, quand on organise une campagne ou une action sur Facebook, qu'on nous interpelle, on nous pose des questions et on s'est dit, mais soyons là, répondons aux questions qu'on nous pose, osons dire ce qu'on fait des données, où est-ce qu'elles sont, qui y a accès, comment, dans quel cadre. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu décrypter ou démystifier. Et donc, c'était le pourquoi de ce thème du débat de ce soir.
S'il n'y a pas moyen de pérenniser, Abrumettes n'a sans doute pas des moyens illimités, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de pérenniser cette aide dans des communes bruxelloises? Il y en a 19 par ailleurs.
Alors, il y a différentes choses à dire. Bon, tout d'abord, alors, on a développé des petites vidéos très simples qui expliquent ce que c'est le dossier santé partagé, ce que c'est le réseau santé bruxellois, quel type de documents on peut trouver. On en a une autre qui explique très facilement, étape par étape, comment se connecter, parce que c'est évidemment la première chose à faire pour le découvrir, son dossier santé partagé, c'est d'arriver à se connecter. Donc vraiment étape par étape, comment se connecter avec son lecteur de carte ou en utilisant ITSMI. Entre-temps, ITSMI a aussi beaucoup progressé, donc l'accès est devenu quand même un tout petit peu plus facile. On a été étonnés ce matin de voir un nombre vraiment de plus en plus important de patients qui disaient oui, ITSMI, ça je connais en mon dans la poche. On a aussi des partenariats avec les associations de patients, avec la LUS, avec la VPP. Donc, on essaye d'organiser régulièrement des rencontres. On a aussi des échanges avec les mutuelles. On est aussi très ouvert à aller à la rencontre des patients au travers des mutuelles. Nous, on est ouvert. Alors, on a aussi parfois des contacts avec les espaces publics numériques. Donc, on est ouvert à toute suggestion. Ça aussi, on a envie de le dire ce soir. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. On est vraiment continuellement occupé à former et les prestataires de soins qui utilisent évidemment le réseau santé bruxellois pour consulter ou mettre à disposition des données santé. Mais on est aussi là pour les patients. Et d'ailleurs, là, je dois quand même saluer aussi le fait qu'il y a bien une volonté de la part du monde politique de nous donner les moyens aussi de nous adresser aux patients, comme à l'occasion de cette semaine e-santé.
Je pense qu'il existe des solutions numériques à de nombreuses solutions techniques sur le marché et que nous accordons également de plus en plus d'attention à la convivialité de ces solutions. Je pense que le portail RSB y accorde suffisamment d'attention, mais nous essayons d'y accorder toujours
toujours plus d'attention. Par exemple, si vous pouvez utiliser l'application mobile pour vos ordonnances et vos médicaments, nous avons effectivement fait quelques tests avec un certain nombre d'utilisateurs pour voir si c'est suffisamment simple et suffisamment clair en termes de messages pour que cela fonctionne. Je pense que nous pouvons faire beaucoup de progrès pour amener toutes les applications à ce niveau de convivialité. Si je regarde dans le passé, j'ai beaucoup aidé ma mère à régler ses affaires bancaires, mais aujourd'hui, il n'y a aucun problème à tout faire soi-même. Ils peuvent utiliser leur smartphone, c'est très facile de se connecter. Je pense que nous pouvons aller plus loin dans nos applications, car elles peuvent être rendues aussi conviviales que ces systèmes.
Quand j'ai une discussion avec les médecins, donc comme on l'a dit tantôt, on pense à l'attracteur numérique, ce sont les personnes âgées. Et on pense que les jeunes médecins, quand je les interroge au premier cours en auditoire à l'ULB, à l'ERAS, je leur dis, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez que Yelp fait, que c'est quoi l'e-santé, etc. Nous, ils partagent les données. Donc, ils vont être sur Instagram, ils vont être sur Facebook, etc. Mais par contre, sur l'idée du partage électronique, ils ont un mythe. Ils pensent qu'on a encore, au sable tout début du débat qu'on a eu sur la centralisation. Ils pensent qu'encore les données sont centralisées comme en France avec un dossier qui est partagé, mais donc qui est centralisé au niveau de l'État. Et donc, je pense qu'il faut démystifier tout ça. Et ça, je reste convaincu que la sécurité aussi passe vraiment par la sensibilisation, l'information, la formation initiale des prestataires de soins et la formation continue que notamment d'ailleurs Brumet fait aussi avec les prestataires de soins.
Ce podcast vous a plu ? Écoutez nos 5 autres podcasts relatifs à la sécurité des données santé partagées. Ils traitent des fondements du partage des données de santé sur les réseaux, des conditions d'accès, dont le consentement qui fait l'objet d'un podcast à lui tout seul, de la sécurité des systèmes, ainsi que de la deuxième vie de nos données de santé. À très bientôt !